Le monde vu par ce samedi matin, Sophie Larmoyer qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Mais d'abord la parole à Romain Lacroix, notre confrère de Paris Match. Romain, bonjour.
Bonjour.
Il y a cette semaine dans Paris Match, comme dans presque tous les magazines français, c'est vrai, mais là il y a des images, évidemment c'est le fond de Paris Match, il y a des images extrêmement impressionnantes, des révoltes populaires qui enflamment la planète à Santiago, en Irak, à Beyrouth, à Hong Kong, etc. etc. Alors, bon, ok, on les voit depuis des semaines, ces images à la télévision, dans la presse française. Et vous avez essayé de comprendre, vous, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une contagion? Pourquoi les gens descendent-ils dans la rue? Ils protestent parce qu'ils vivent mal ou parce qu'ils vivent mal en regard d'autres qui vivent scandaleusement trop bien?
Ils se révoltent pour des raisons qui sont à chaque fois très différentes les unes des autres, mais le fond reste toujours à peu près le même. Et la propagation, le système de propagation de ces révoltes, suivent une logique très numérique, j'ai envie de vous dire,
oui.
Aujourd'hui. Alors, à une certaine époque, on avait pu le voir en mai 68, où le monde s'était également embrasé grâce à la télévision. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, évidemment, c'est Internet qui favorise cette révolte. On a vu en France les Gilets jaunes faire leur révolution. Et les autres pays ont pris la suite, parfois pour les mêmes raisons, comme en Équateur, par exemple, ou à Quito, les gens sont descendus dans la rue pour l'augmentation du prix de l'essence.
Au Chili,
au Liban, c'est juste une taxe qu'on a envie de
que
le gouvernement va mettre sur WhatsApp. Voilà. Donc les raisons changent. Parfois, c'est aussi, comme on le voit en Espagne, pour une révolte séparatiste.
Oui.
Mais sur le fond, ce sont les inégalités qui révoltent les gens.
Ce qu'il y a, c'est que les gens se disent pourquoi on va me prendre quelques centimes à moi alors que le super milliardaire, le nouveau riche qui a fait fortune dans l'Internet, on ne le taxe pas.
C'est ça qui les rend fous. On a vu, par exemple, aussi à Hong Kong, un milliardaire s'acheter une place de parking $1 million pour garer sa Bentley. À New York, un appartement est à vendre $98 million. À Paris même, on a vendu un hôtel particulier 45,8 millions, je crois.
Et une boutique sur les Champs-Élysées, 620 millions à Nike, je crois.
Tout à fait.
Il n'y a pas de débat si longtemps.
C'est ce grand écart qui révolte les gens.
Et on poursuit, bien sûr, cette rubrique avec Sophie Larmoyer. Sophie, bonjour.
Bonjour, Bernard.
La semaine dernière, le week-end d'ailleurs, on parlait à l'antenne du prix du porc qui flambe en France. Pourquoi ? À cause de la peste porcine qui sévit terriblement ailleurs dans le monde, notamment en Asie, et qui entraîne dans ces pays-là une pénurie de viande de cochon, donc ils achètent massivement du cochon français, et le prix du porc monte en flèche. Ce qui fait que nous, on paye une tranche de jambon plus cher, c'est aussi bête que ça. Alors, mais en Asie, le vrai problème, il est là-bas. En Asie, c'est dramatique. Pourquoi ?
Oui, on dit de cette peste porcine africaine que c'est l'Ebola du cochon, elle tue les animaux en quelques jours, et les épidémiologistes estiment qu'on est face à la plus grande épidémie animale jamais vue sur la planète. Elle s'étend sur plus de 50 pays et notamment, vous le disiez, en Chine, premier consommateur mondial de viande de porc. Un Chinois mange environ 30 kilos de porc par an. La peste porcine est arrivée dans le pays par le Nord-Est il y a un peu plus d'un an, en août 2018. Elle s'est répandue très vite dans toutes les provinces, décimant les élevages. Les experts pensent que plus de la moitié du cheptel aura disparu cette année, soit 200 millions de cochons.
C'est colossal, c'est chiffre fou.
C'est à peu près l'équivalent de la production européenne.
D'accord. Alors pourquoi cette épidémie s'est-elle propagée si vite en Chine en quelques mois? Parce qu'il n'y a pas de service sanitaire de blocage, c'est ça?
Alors notamment, mais il faut comprendre d'abord que c'est un virus extrêmement contagieux.
Oui.
Même des restes de déjections dans un camion de transport peut contaminer d'autres cochons pendant des semaines. Donc un cheptel touché, il faut l'isoler et l'abattre intégralement. Et puis, en Chine, il y a 26 millions de fermes porcines. Et les trois quarts de la production vient de petites structures familiales sans trop de moyens ni de règles sanitaires. Donc vous imaginez comme il est compliqué, voire impossible, d'imposer des règles, même en urgence, d'autant que les indemnisations données en cas d'abattage sont inférieures au cours du marché.
Alors c'est un défi très considérable, d'autant qu'il est très difficile, semble-t-il, d'éradiquer complètement cette peste.
Exactement. Donc chacun s'efforce finalement d'empêcher l'épidémie d'arriver dans son pays et certains y mettent les grands moyens. La très sérieuse revue scientifique Nature rapporte que la Corée du Sud a déployé à la frontière avec le Nord, dans la zone démilitarisée,
la DMZ, oui.
Voilà, des tireurs d'élite et des drones militaires équipés de capteurs thermiques pour repérer les sangliers ou les porcs qui auraient été touchés par le virus, et ils en auraient déjà abattu 150 000.
L'abattage, bon, certes, c'est la seule solution, semble-t-il. Il n'y a aucun vaccin, on est d'accord.
Pas à ce stade. En tout cas, pour la peste porcine africaine, qui est plus redoutable que la peste porcine classique. Petit espoir quand même, même si ce n'est pas pour demain. Une autre revue, Science, a indiqué qu'une équipe de scientifiques chinois avaient réussi à obtenir une image extrêmement détaillée de la structure du virus, ce qui est une avancée importante vers la mise au point d'un vaccin.
Sophie Larmoyer, merci beaucoup donc pour cet éclairage sur l'épidémie de peste porcine, épidémie mondiale. Et vous aussi, Romain Lacroix donc de Paris Match, je vous souhaite à tous deux un excellent week-end.